Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la musique. Ce soir, Anna Sigalevitch et Emmanuel Dupuis se font face à notre affiche Richard Strauss At the End of the Rainbow, un documentaire sorti en DVD, signé Eric Schulz. Un CD Schumann par Jean-Guyen Queyras et puis celui d'œuvre de Scarlatti, Ravel, Liszt, Chopin par Lucas Debargue. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir. Des invitations pour l'exposition Habiter le campement. C'est jusqu'au 29 août à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Enfin, nous avons rendez-vous avec le chef d'orchestre et directeur de l'Opéra National de Bordeaux, Marc Minkowski, qui est toute cette semaine l'invité de La Dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec un documentaire paru en DVD chez Harmonia Mundi, Richard Strauss, At the End of the Rainbow, voilà, à la fin, au bout de l'arc-en-ciel. Film réalisé par Eric Schulz, qui avait précédemment consacré des films à Carlos Kleiber et Herbert von Karajan. À la fin de l'arc-en-ciel, au bout de l'arc-en-ciel, propose en 1h37 de revisiter la vie et l'œuvre du compositeur allemand, né en 1864, mort en 1949, un auteur très prolifique, qui embrassa tous les genres, du Lied à l'opéra, en passant par les symphonies, les pièces pour piano, musique de chambre, pour entrer dans son univers, le troisième des quatre derniers leaders de Strauss. Je ne me risquerai pas au titre allemand, mais à sa traduction, En s'endormant, poème de Hermann Hesse, interprété ici par Elisabeth Schwarzkopf, sous la direction d'Otto Ackermann, un enregistrement de 1953. Thank you. Bon, mais ça ne peut pas faire de mal quand même, hein, cette musique de Strauss pour ouvrir notre discussion sur le documentaire donc d'Eric Schulz, Richard Strauss at the end of the rainbow, sorti par Harmonia Mundi, produit par C Major. Emmanuel Dupuis, pour commencer.
Oui, alors c'est un documentaire moi, que j'ai trouvé assez finement réalisé. Et c'est en quelque sorte une promenade assez nostalgique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais choisi ce leader de Strauss, extrait des quatre derniers leaders, parce que justement, il y a cette nostalgie, cet adieu au monde et à la fois adieu à une certaine idée de la civilisation occidentale, très probablement. Et ce film, d'ailleurs, présente Strauss un peu de cette manière, c'est-à-dire effectivement comme l'extrémité d'un arc-en-ciel qui commencerait avec Beethoven et qui s'achève effectivement avec Strauss en 1949, comme étant le dernier grand représentant de la musique allemande.
Ça, c'est vraiment la thèse du film.
C'est la thèse du film, exactement, et qui thèse que, bon, personnellement, je partage volontiers. Et donc, on a cette espèce de promenade qui nostalgique, mais aussi polyphonique, puisque la réalisation croise les interventions et les regards de plusieurs historiens, de plusieurs musiciens, de Brigitte Fassbinder également, qui la célèbre mezzo, qui a été un des plus grands Octavian de tous les temps, et qui anime une masterclass justement sur les leaders de Strauss, et c'est assez fascinant de la voir travailler, parce que la jeune chanteuse qu'elle fait travailler, c'est vraiment dans le moindre détail, c'est...
Le moindre R roulé,
voilà,
ou
c'est
pas.
Ça, elle la reprend
sur la moindre... Ou le I couvert, la fin qui ne doit pas mourir.
Exactement, sur la moindre consonne, la même voyelle, enfin c'est vraiment très très intéressant. Et ce film balaye vraiment très large, c'est-à-dire vraiment tous les aspects de la biographie et de l'œuvre de Strauss.
Sa vie, son œuvre.
Voilà, sont abordés, les aspects, y compris la vie privée, les relations tumultueuses avec son épouse, la soprano Pauline de Hanna. La question du lien avec le Troisième Reich n'est absolument pas éludée. C'est abordé.
Rapidement, hein.
Rapidement, oui, mais.
Très rapidement.
Mais ça ne mérite pas qu'on s'attarde davantage. Je veux dire, c'est ni à charge ni à décharge. Je trouve que c'est fait avec tact, mais ce n'est pas éludé, quoi, tout simplement. Bon, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais, et surtout, ce film propose des pistes de réflexion vraiment intéressantes, à mon avis, sur deux sujets essentiels qui sont, tout d'abord, comme je disais tout à l'heure, la place de Strauss dans l'histoire de la musique. Et notamment dans l'histoire du XXe siècle. Et l'autre point plutôt méconnu, c'est l'activité de chef d'orchestre de Strauss.
Absolument.
Je dis méconnu parce que Strauss a énormément dirigé. Et pendant des années, la direction d'orchestre était son principal moyen de subsistance.
Son petit-fils dit qu'ils ont essayé de faire une fois le compte. Ils arrivaient entre 6000 et 6500
c'est énorme,
soirées où il a dirigé.
Donc, et ce deuxième point sur la direction d'orchestre est illustré notamment par des images d'archives où on voit Strauss diriger, et c'est à la fois fascinant et frustrant, je veux dire pourquoi. Fascinant parce que aujourd'hui on voit beaucoup de chefs qui s'agitent énormément sur le podium, et lui, c'est vraiment une économie de gestes totale, et simplement avec un petit geste, un sourcil qui se lève ou un petit sourire.
Ou à de rares occasions la main gauche.
Voilà, à de rares occasions la main gauche, il déclenche des tsunamis. Enfin, bon, c'est incroyable. Et c'est frustrant en même temps, parce que ce sont toujours de très courts extraits. Et on aimerait vraiment en voir davantage. C'est vraiment dommage que l'éditeur n'ait pas proposé en bonus l'intégralité de ces archives.
Il y a une session notamment filmée, pour être filmée, puisqu'il n'y a pas de public. Il est avec ses musiciens on pourrait avoir l'intégrale.
Bien sûr, ça existe.
C'est une œuvre qui ne dure pas longtemps.
Ce serait formidable. Oui, oui. Bon, ce sera pour la réédition. Bah,
j'espère que
du DVD.
Ça serait bien, effectivement, que ça paraisse.
Bon, je reviens vers vous, Emmanuel, pour avoir les premières impressions d'abord d'Anna Segalevich sur ce documentaire.
Mais ce qui est étonnant, moi, je trouve, avec ce documentaire, qui m'a intéressée beaucoup, c'est qu'à la fois, oui, il y a sa vie, son œuvre, on parle de tout, et en même temps, non, on ne parle pas de tout. C'est-à-dire qu'il y a des trous qui sont, je trouve, assez étonnants, notamment sa collaboration avec Hoffmanstahl. Moi, j'ai regretté que ce
soit pas compris non plus.
Que ce soit pas du tout évoqué.
Ça.
Alors qu'en plus, il y a une correspondance
c'est
qu'on sait quand même.
Évoqué quand même, mais en même temps.
À peine. C'est 30 secondes. Hein.
Oui, mais c'est en même temps, c'est bon, c'est peut-être parce que c'est très connu aussi.
Enfin, moi, c'est ce qui m'aurait passionné personnellement. J'attendais ça.
Et puis surtout, il y a une correspondance qui existe, qui est riche, etc. Bon, voilà, ça fait partie peut-être des trous que je trouve un petit peu dommage. Vous avez raison quand vous dites que c'est pas éludé sur le Troisième Reich, c'est pas non plus hyper problématisé.
Mais pourquoi le problématiser? Parce que je veux dire, faut pas non plus exagérer. Strauss n'était pas nazi, n'était pas.
Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, parce que notamment, il a quand même défendu Zweig en cherchant à laisser son nom sur le programme, alors que le régime voulait l'enlever, etc. Il s'est battu pour ça. Donc c'est dans un sens comme dans l'autre. Voilà, c'est évoqué sans être spécialement fouillé et réellement traité. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, comme vous, hein, ce sont ces archives. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est vraiment l'œuvre qui agit comme fil conducteur tout au long du documentaire, qui est La Spiègle, qui a été donc filmé en 1944 à Vienne. Ça commence par ça, le film, avec un clap de début de prise, et on le retrouve tout au fil du documentaire, et ça s'achève par l'ovation des musiciens de l'orchestre qui se lèvent pour applaudir Strauss. Ça, c'est un très beau moment, et il lui dit, d'ailleurs il leur dit très modestement, mais attendez, on va pas se féliciter mutuellement, nous méritons. Et je trouve que ça brosse en fait ça dresse un portrait de Strauss que moi, je dois dire, je connaissais assez peu, c'est-à-dire un homme assez drôle. Enfin, on sent un humour fou, je trouve, dans son visage. Pince sans rire, une grande ironie. Ouais. Et ce Till l'espiègle est intéressant pour ça, parce que c'est une œuvre qui raconte donc l'histoire d'un faux pasteur qui raconte des histoires, etc., qui se fait chasser. Enfin, c'est un personnage qui grimace, qui est malicieux, qui est irrévérencieux, qui a une forme de, qui est aussi libre penseur. Et je trouve que c'est intéressant de prendre du coup par ce prisme en fait la personnalité de Strauss qui se dégage. Alors il y a des intervenants qui sont très intéressants, notamment un pianiste qui s'appelle Stéphane Mikisch, qui connaît son Strauss vraiment sur le bout des doigts.
Qui fabule aussi beaucoup.
Mais qui invente. Mais oui, mais ça moi j'aime bien, c'est super. Du coup c'est très personnel.
Il joue et il dit voilà ce qui se passe. Quoi.
Alors en fait on voit Strauss diriger effectivement très peu, c'est un peu frustrant, je suis d'accord avec vous. Et oups, ça glisse, c'est fondu vers le Mikisch là qui reprend au piano et qui dit ah mais là vous comprenez, ça raconte ça.
Il traverse son jardin, il ouvre la porte, sa femme l'ouvre, elle est pas contente.
Voilà.
C'est très drôle.
Mais il a raison, parce qu'en fait c'est une musique très figurative.
Mais complètement, bien sûr.
C'est
narratif,
justement.
Mais je trouve que c'est intéressant de voir une partition qui est analysée dramatiquement en expliquant pourquoi telle rythmique, pourquoi l'arrivée de telle trombone, de telle clarinette raconte ça dramatiquement. Et ça, c'est très généreux, je trouve, comme façon de raconter la musique de Strauss. Ça m'a beaucoup plu.
Alors, c'est vrai que, le défaut, enfin, s'il faut le dire comme ça, principal, c'est que c'est vraiment un documentaire absolument hagiographique. Hein. Il faut pas, voilà, c'est tout à la gloire de Richard Strauss. Je veux dire, c'est l'unisson quand même.
On peut difficilement faire autrement en même temps. Parce que...
Oui, c'est évidemment, quand on fait un film comme ça, on ne va pas introduire la moindre. Mais enfin, ils sont tous là pour corroborer le titre. C'est le dernier géant de la musique classique. Voilà, ça se referme avec lui. Bon, ça, c'est une chose. Il y a quand même une chose que moi, j'ai trouvé extrêmement ratée, ce sont les lectures des lettres par deux jeunes comédiens.
Effectivement.
Et alors, dans une mise en scène ultra gênante, puisque donc on a ces deux jeunes comédiens qui lisent chacun leur tour, mais quand il y en a un qui lit, on regarde l'autre qui fait des mimiques d'une expressivité quand même de niveau extrêmement débutant. Donc voilà, ils auraient pu effectivement s'en passer.
C'était pas indispensable. Effectivement, on aurait préféré que ces lectures
soient en off, sur des éléments d'archives, des photos, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que, la dimension pédagogique très claire, très riche, enfin vraiment intéressante. Les images d'archives, bon, ça on en a parlé. Dire aussi qu'il y a une archive sonore qui est magnifique. C'est le discours que Strauss prononce presque à la toute fin de sa vie, devant ses pairs. Et là, on a l'archive sonore et on a quelques images aussi, mais qui sont pas synchrones, mais c'est très, il dit des choses absolument fortes et très très belles, quoi, sur un état du monde, sur un état de la culture allemande, sur le fait de pouvoir renaître après la chute du Troisième Reich. Et j'ai trouvé que cette archive, elle était, et on voit un homme qui est comme ça, dans une, à la fois d'une très grande dignité, en même temps d'une très grande gravité aussi, et en même temps, c'est très beau aussi ce qu'il dit, de façon presque poétique, quoi.
Emmanuel Dupuis. Oui, mais je pense que Strauss avait quand même conscience de la place qu'il occupait dans l'histoire. C'est tout simplement le seul grand compositeur qui, après Wagner, a osé écrire des opéras. Et il a osé parce qu'il en avait le talent. Et
par exemple, c'est vrai qu'on dit souvent dans le documentaire, ils disent, les intervenants, c'est plus fort que Wagner, c'est mieux que Wagner, il va plus loin que Wagner. Bon, ça peut se discuter quand même un petit peu, non?
Ça peut, sur certains points, par exemple, l'humour en musique, il est évident que c'est une chose.
Ça vient pas de Wagner.
C'est une chose que.
Et la légèreté aussi.
La légèreté, c'est une chose que Strauss, dans Le Chevalier à la Rose, par exemple, dans Rien n'a de sens, il y a une légèreté dont Wagner, effectivement, a toujours été incapable.
Il y a un propos très misogyne. Les femmes s'endorment en allant voir Le Chevalier à la Rose, elles se réveillent juste pour la scène, trio, elles se rendorment.
Ça, c'est le Mikiche qui dit ça.
C'est
le Mikiche est assez gratiné quand même. C'est un personnage, même comme il analyse, il fait passer Pauline de Nap pour une mégère.
Oui, mais elle était.
Vous l'avez bien connue.
Non, mais c'était une relation. On connaît leur relation à travers leur correspondance. Et puis, il y a les témoignages aussi du petit-fils de Strauss, qui est toujours vivant et qui témoigne donc dans le film. Et c'était une relation, effectivement, à la fois passionnelle, et ils se déchiraient. Et en même temps, une relation fusionnelle, puisqu'à la fin du documentaire, on voit les images de l'enterrement de Strauss, et on voit Pauline de Hanna tout en noir qui s'effondre, et c'est très, très, très émouvant.
Et qui meurt 6 mois plus tard, d'ailleurs.
Bien sûr.
Très, très, très peu de temps. Non, c'est très beau. Et on dit aussi beaucoup. C'est-à-dire que c'est ça qui est beau aussi, c'est tous ces leaders où on sent qu'elle est très présente, qu'il a beaucoup écrit pour elle. Mm-hmm. Et c'est beau de voir Brigitte Fassbender transmettre à cette jeune aussi, à cette jeune mezzo. C'est pas forcément d'une finesse totale dans la réalisation, mais en même temps, je trouve ça beau, moi, l'idée qu'on voit dans l'Allemagne moderne, cette jeune Australienne qui débarque dans le pays de Strauss et qui écoute au casque cette musique et qui apprend l'art de ce chant-là et de cette musique-là. Je trouve ça beau. Enfin, en tout cas, il y a un point de vue, il y a une tentative artistique, il y a un vrai geste, je trouve, dans ce documentaire qui est personnel et qui est touchant,
je trouve
vraiment. C'est pas un documentaire exhaustif et objectif, et c'est ce qui le rend intéressant.
Je partage.
Bon, nous partageons et nous recommandons donc de se procurer le DVD de ce film, Richard Strauss, At the End of the Rainbow, d'Eric Schulz, paru chez C Major Harmonia Mundi.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure du disque que Jean-Guy Inkeras consacre à Robert Schumann. Avant cela, on retrouvera l'invité de la dispute, Marc Minkowski. Nous évoquerons aussi plus rapidement le premier disque de Lucas Debargue. Pour l'instant, on retrouve la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute avec Antoine Guillot. Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Vous vous demandez sans doute quel spectacle lyrique aura la faveur de vos sorties estivales normales. Vous avez l'embarras du choix. Sachez par exemple, comme nous l'apprend l'Obs, que le Parsifal de Wagner, monté cet été par Uwe Erik Laufenberg au festival de Bayreuth, sera islamo-critique. La direction du festival a demandé que la sécurité soit renforcée. Moins périlleux du point de vue de la sécurité, en tout cas, car artistiquement, ça reste à voir. Opéra en plein air programme cet été une production de La Bohème de Puccini. Très gauche caviar, persifle Le Figaro. Jacques Attali signe la mise en scène. Enki Bilal, les décors et costumes. Et le chef Patrick Souillot dirige le Music Booking Orchestra, la formation controversée d'Anne Gravoin, la compagne de Manuel Valls, de Vincennes aux Invalides. Le spectacle se produit principalement dans des palais de la République. Si vous n'êtes pas convaincu, vous avez aussi la réalisatrice Sofia Coppola, la fille de, mais aussi petite fille d'un compositeur qui était flûtiste dans l'orchestre de la NBC de Toscanini qui, lit-on dans Diapason, doit mettre en scène en mai et juin son premier opéra, La Traviata, à Rome, plusieurs années après avoir décliné la proposition que lui avait faite René Koering de diriger Roberto Alagna dans Manon Lescaut à Montpellier. On attend de voir si ces trois opéras feront l'événement, comme l'a fait ce 16 avril à l'Opéra de Vienne, La Tosca, qui rassemblait sur scène un trio mythique, Angela Giorgio, Jonas Kaufmann et Bryn Terfem, et auquel a assisté, peut-être sur son ordinateur, puisque la représentation était retransmise en streaming sur le web, Christian Merlin du Figaro. Le bruit avait couru, rapporte-t-il en préambule, que lors de la représentation précédente, le 9, Jonas Kaufmann avait bissé son air E luce van le stelle, une rareté. Le ténor allemand, superstar actuel, hors catégorie et d'ores et déjà l'un des dieux de l'histoire de l'opéra, se montrait dans une forme suffisamment éblouissante pour calmer les inquiétudes de ses fans après plusieurs annulations, probablement destinées à se soigner. Triomphe une fois de plus après son air. Cette fois, il semble décidé à ne pas se laisser fléchir, mais au bout de 5 bonnes minutes d'applaudissements délirants, il est obligé de céder. Il redonne son air. L'orchestre enchaîne. Dans sa cellule, Mario Cavaradossi va recevoir la visite inespérée de sa maîtresse, Floria Tosca, qui a obtenu un sauf-conduit du fourbe Scarpia, sauf que le ténor voit ce qui échappe au chef d'orchestre Jesús López Cobos, pas de Tosca en vue. Constatant qu'il y a un problème, l'orchestre tient la note et au lieu de chanter les paroles Franchigia à Floria Tosca, un laissez-passer pour Floria Tosca, Kaufmann lance sur les mêmes notes Non abbiamo soprano, nous n'avons pas de soprano. L'orchestre s'arrête, Kaufmann éclate de rire et la salle avec lui. Avec sa gentillesse et sa simplicité coutumière, le ténor s'adresse au public. Excusez-nous, j'espérais qu'on allait pouvoir enchaîner, mais ah voilà, cette fois nous allons pouvoir continuer. Encore toutes nos excuses. L'orchestre reprend et cette fois Angela Giorgio entre en scène avec un air bougon et fermé qu'elle conservera jusqu'au salut. Que s'est-il passé ? S'interroge le critique du Figaro. Officiellement un retard involontaire. Entendant que le ténor bissait son air, elle aurait préféré retourner dans sa loge plutôt que d'attendre en coulisses. Or l'orchestre a enchaîné après le bis sans applaudissements. Les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie et connaissant bien les antécédents de la diva en matière de caprice et manque de confraternité, ne sont pas dupes. D'autant que la Giorgio avait déclaré en interview son hostilité au bis. De là à penser qu'elle a pris la mouche car le ténor a monopolisé les applaudissements. Certains observateurs avisés ont remarqué qu'au premier acte, elle n'avait pas posé comme prévu le bouquet de lys dans les fonds baptismaux, si bien que Scarpia, alias Bryn Terfem, supposait en extraire une fleur à tâtonner en vain dans le récipient avant de renoncer au jeu de scène prévu. Vous remarquerez que Tosca est l'opéra qui appelle le plus ce genre d'anecdote. Entre la fois où Régine Crespin a dû tuer Gabriel Bacquier avec une fourchette parce qu'elle ne trouvait pas le couteau, celle où Montserrat Caballé a rebondi sur le matelas censé amortir la chute de l'héroïne, et celle où José Carreras, constatant que le peloton d'exécution censé le fusiller n'était pas entré en scène, a levé les bras au ciel et est sagement tombé à terre sans coup de feu. Il y aurait un livre à écrire. Rien que pour ce genre d'incident, panne, échange d'amabilité, l'opéra sera toujours l'opéra, lieu où les dieux sont aussi des hommes et les déesses des femmes. À Bertrand Dermoncourt qui lui demandait dans l'Express si cela l'a gêné qu'on l'appelle diva, la plus grande star féminine du monde lyrique, aussi sollicitée et protégée qu'une Madonna. Vous aurez reconnu Anna Netrebko. Répondez oui, j'ai peur de ce mot, car il possède une connotation négative. Diva rime avec caprice, excès ou obsession. Comment vit-elle sa célébrité délirante en Allemagne ou en Autriche ? Vous parlez de tous ces articles sur moi tous les jours que Dieu fait ? Répond-elle. C'est simple, je ne les lis jamais. Cela me passe totalement au-dessus de la tête. C'est peut-être ça, au fond, être une diva. Quant au message qu'elle donnerait à de jeunes artistes, le voici, qu'il faut être lucide et savoir pratiquer l'autocritique, jamais l'automutilation. Si cela n'a pas marché un soir comme on l'espère, il faut travailler et s'améliorer. Cela dit, mon message aux jeunes chanteurs serait plutôt, surtout, ne devenez pas chanteur. À bon entendeur, salut et même bis.
On vous fait bisser la revue de presse.
Ah, oui, franchement, voilà, ça mériterait un bis. Voilà, bravo, Antoine.
On entend les vivas du public pour vous. Vous avez vu cette représentation, non? Vous l'avez suivi sur...
Non, mais on peut la visionner sur Internet très facilement. Bon, ça tourne sur les réseaux sociaux.
Il faut qu'on mette un lien sur la page de la dispute et de la revue de presse d'Antoine pour qu'on puisse tous goûter ça.
Moi, j'aurais voulu voir Régine Crespin qui tue avec la fourchette. Franchement, ça, je trouve que c'est vraiment le pompon, quoi.
C'est le pompon. Le pompon, ce sera peut-être quand même. C'est quoi? C'est la bohème cet été.
Oui. Non mais ça, franchement, c'est pas sérieux, quoi. Enfin, ouais. Je veux dire.
Ça fait un moment que ça dure. Hein.
Oui, et moi, je dis ça en connaissance de cause. J'en ai vu deux. J'ai vu Carmen et j'ai vu La Traviata. Et vraiment, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que cet orchestre qui est sonorisé de façon hallucinante, ça sonne vraiment mais épouvantablement. Les chanteurs sont pas bons. Enfin.
Quant aux mises en scène,
on peut faire des spectacles d'opéra avec des moyens qui sont un petit peu restreints. On l'a vu, enfin ce qu'a fait par exemple la coopérative avec les Noces de Figaro, qui sont des spectacles en plus accessibles pour les spectateurs. Enfin, ça coûte pas très cher. Là, ça coûte pas rien du tout. Et je trouve que c'est triste que des gens qui sont pas forcément spécialistes d'opéra découvrent des œuvres comme ça. Voilà, je trouve que c'est pas respectueux, quoi, en fait. Voilà.
Emmanuel Dupuis, vous en avez vu, tes opéras en plein air?
Non, je n'en ai pas vu, mais enfin, bon, je me doute du niveau artistique et je pense partager...
Non, mais c'est au-delà de ce que vous imaginez, oui, franchement.
Bon, en même temps, c'est une entreprise privée, ça ne coûte pas un sou d'argent public. Bon, voilà, point barre. Effectivement, c'est pas pour nous, c'est pas à conseiller, ni aux mélomanes, ni aux gens, effectivement, qui veulent découvrir l'opéra. C'est pas la...
Voilà. Mieux vaut aller au cinéma pour voir les retransmissions.
Mais oui, vraiment, bien entendu.
Ah bah oui, là,
c'est moins cher.
C'est moins cher et c'est d'autres productions.
Voilà, c'est un autre niveau.
C'est un autre niveau. Bon, voilà pour cette recommandation de ne pas aller aux opéras en plein air, mais enfin cela. À présent, parlons, comme nous le faisons dans ces disputes musicales, d'un sujet qu'on va traiter un peu plus rapidement que les deux autres. Ce soir, c'est le premier enregistrement de Lucas de Bargue, le jeune pianiste français de 25 ans, quatrième du concours Tchaïkovski de Moscou en 2015, mais premier pour les critiques musicaux qui lui ont attribué leur prix. C'est Sony Classical qui sort ce disque avec un programme qui comprend Scarlatti, Chopin, Liszt, Ravel, Grieg et Schubert, qui était enregistré en live à la salle Cortot à Paris, c'était à l'automne dernier. Avant d'en parler, on écoute la toute fin de Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel. Thank you. Voilà pour cet extrait du premier CD du jeune pianiste français Lucas Debargue, Anna Sigalevitch.
Oui, qui est un phénomène. Hein,
ah, oui.
Donc après avoir...
On a entendu.
Avoir gagné le quatrième prix au concours Tchaïkovski en juin dernier. D'ailleurs, je recommande vraiment chaleureusement aux auditeurs d'aller sur le site de Medici TV parce qu'on peut voir les trois tours en fait du concours Tchaïkovski et c'est assez passionnant de l'écouter. Au premier tour, il joue une sonate de Beethoven, une étude de Chopin, du Liszt, etc. Au second tour, une sonate de Mettner qui joue remarquablement d'ailleurs et Gaspard de la nuit et un concerto de Mozart le 24 et en finale, deuxième concerto de Liszt et premier concerto de Tchaïkovski. Donc voilà, ça donne je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller voir puis de voir là aussi le climat qui se dégage de cette salle à Moscou qui est très intéressant. Alors c'est un pianiste très étonnant hein, parce que a priori il a fait tout ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire qu'il a commencé le piano tard, 11 ans, ce qui est tard quand même pour quelqu'un qui veut devenir pianiste. À l'écoute, en fait, il a écouté le concerto 21 de Mozart et ça l'a bouleversé. Donc, il a commencé à prendre quelques cours, puis à travailler aussi beaucoup seul, à bricoler, hein, comme il dit, en travaillant à l'oreille, en écoutant, téléchargeant des trucs sur Internet, tout ça. Puis, l'année de son bac, il s'est dit qu'il allait arrêter le piano puisqu'il allait donc passer son bac. Donc, il a passé son bac, il s'est inscrit en fac de lettres. Donc, pendant 3 ans, plus de piano. C'est inimaginable pour quand on voit où il en est aujourd'hui. Et puis finalement on lui a proposé comme ça d'aller jouer à une fête de la musique à Compiègne et quand il a joué les gens sont devenus fous quoi, ils lui ont dit mais ils l'ont supplié d'aller prendre des cours sérieusement, ce qu'il a fait avec Rena Chereshevskaya qui est une grande professeure du conservatoire de Rueil et de l'école normale et 4 ans plus tard le voilà au concours Tchaïkovski remportant le quatrième prix et surtout déclenchant la passion générale, c'est-à-dire qu'il a eu le prix de la critique comme vous l'avez dit, des critiques musicaux. Et puis Gergiev l'a invité à jouer, Berezovsky a dit que c'était un génie, Feltsman l'a trouvé incroyable, Bachkirov aussi. Enfin, il y a eu vraiment une sorte de d'élan apparemment général.
Il a fait le buzz, on va dire.
Voilà, il a fait le buzz.
Bon, on sent là qu'il y a
alors,
quelque chose qui n'est
pas Emmanuel. Alors, je sens une pointe de...
Non, mais...
Bon, eh bien, moi, je trouve que c'est normal qu'il y ait eu ce buzz, parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un...
Non, je suis... Effectivement, c'est une personnalité, ça rend le panier.
Voilà, c'est une vraie personnalité. C'est-à-dire qu'il se met au piano, quand on entend les sonates de Scarlatti, je trouve qu'il y a un toucher qui est très particulier. Est tout de suite... Ah, moi j'aime beaucoup. Alors j'y vais. Le Gaspard de la nuit, qu'on a entendu là, à la fin du Scarabeau, je trouve absolument vraiment... remarquable, que ce soit, enfin, il y a quelque chose de fantasme, qui est inquiétant, il y a quelque chose de spirituel, de brutal par moment, enfin, voilà, je trouve qu'il y a, on sent un potentiel, une personnalité et un esprit que je trouve vraiment très, très, très intéressant.
On sent un potentiel, une personnalité, un esprit, oui, mais rien n'est abouti. Le problème, c'est que, effectivement, ce pianiste a déclenché des passions lors du concours Tchaïkovski, comme vous l'avez très bien raconté, que du coup, toutes les maisons de disques se sont précipitées pour lui faire signer un contrat. C'est Sony Classical qui a remporté la mise, et Sony Classical s'est empressé de publier son premier récital à Paris. Alors on imagine le poids qu'il avait sur les épaules lors de ses récitals à la salle Cortot. En plus, la salle Cortot, qui est une salle qui ne pardonne pas du tout, parce qu'il y a une acoustique qui est vraiment assez sèche, les moindres défauts ressortent. Donc on a sorti ce récital et on sent très bien qu'il avait une pression énorme. Je suis désolé, les sonates de Scarlatti, c'est pas bon. Il y a une tension permanente, il y a une dureté, il n'y a pas de cantabilité du tout. Enfin, moi, je trouve honnêtement ce disque raté et on n'a pas du tout rendu service à ce jeune pianiste qui est probablement un grand artiste en sortant comme ça un live avec juste quelques raccords derrière. Moi je trouve qu'il n'y a rien de vraiment abouti dans ce disque. Parce que même Gaspard de la nuit, alors c'est peut-être le moment le plus intéressant du disque effectivement. Mais là aussi, on sent qu'il y a des petits trucs qui vont pas, quoi. Je veux dire, si on doit comparer, par exemple,
avec Benjamin Grosvenor.
Exactement.
Ouais, j'étais sûr que vous alliez en parler.
Mais exactement. Mais oui, parce que Benjamin Grosvenor, c'est aussi la même génération.
Oui, et il a sorti son premier disque aussi avec du Chopin et avec Gaspard de la Nuit.
Avec Gaspard de la Nuit. Et un Gaspard de la Nuit qui est autrement abouti que celui-ci.
Mais c'est un Gaspard de la Nuit de studio, c'est autre chose.
Oui, mais justement, je veux dire, pour présenter un jeune pianiste, comme ça au grand public.
Au public, tout simplement.
Il fallait lui donner le temps de mûrir un programme, de le faire en studio et pas simplement balancer comme ça la bande d'un concert qui effectivement rien n'est abouti.
Enfin, le compte rendu de notre camarade Marie Audreau dans le Monde de ce concert, elle était bouleversée.
Moi je partage pas du tout votre avis, hein, Emmanuel.
Mais parce que la
quatrième balade de Chopin est ça avance complètement. Les héritiers de Nuto, justement, sont magnifiques. Il a une très belle façon d'amener la mélodie. Il y a une passion, il y a une fougue, il y a un élan. Je suis pas du tout d'accord.
La première Méphistovalse de Liszt, c'est brutal. Il y a pas du tout d'ironie, il y a pas de sarcasme. On le sent. De toute façon, on le sent tendu, on sent tout simplement. Et du coup, ça ne se libère pas. Mais en même temps, oui. C'est quelqu'un qui a du potentiel. Oui, c'est un artiste. Mais voilà.
Il lui faut travailler, selon vous.
Oui, mais surtout.
Prendre le temps.
Je pense que la maison de disques lui a mis une pression folle et il faut qu'il résiste à ça et qu'il soit mieux conseillé, probablement, par un agent qui lui fasse.
Ou par vous.
Ou peut-être par moi.
Moi, j'ai été emporté, je vous le dis. Oreilles.
Il faut qu'il apprenne à dire non, quoi.
Bon, moi, je dis quand même oui à ce disque. C'est quand même pas tous les 4 matins qu'on entend. Un nouveau pianiste comme ça.
Je dis oui à cet artiste, bien entendu, mais pas oui à ce disque.
Bon, écoutez, faites-vous votre avis en découvrant ce disque paru chez Sony Classical, donc ce récital de Lucas de Bargue, on l'entend, du Scarlatti, du Ravel, du Liszt, du Chopin, et j'en oublie un ou deux, Grieg, Schubert aussi, qui sont au programme. Dans quelques minutes, nous parlerons du disque que Jean-Guyen Queyras consacre à Robert Schumann. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute, c'est le chef d'orchestre, directeur de l'Opéra National de Bordeaux, Marc Minkowski, dont on retrouve l'actualité sur le site franceculture.fr. Faire à la page de l'invité de la dispute. Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci. Marc Minkowski, vous l'avez évoqué hier, le festival Ré majeur, votre bébé, l'envie de départ. La création de ce festival, c'était de pouvoir écouter de la musique près de chez vous.
C'était de la présenter, de la présenter à un public qui vient dans ce lieu magique pour s'évader, mais aussi pourquoi pas s'évader par les sensations musicales et curieusement à des habitants insulaires qui sont très mélomane, qui a envie de découvrir des tas de choses, des agriculteurs qui viennent découvrir des œuvres comme le Così fan tutte ou le Vaisseau fantôme ou la Passion de Saint-Mathieu pour la première fois parce que ça se joue à côté de chez eux dans des lieux inédits, un gymnase, des églises magnifiques, des églises en forme de bateau avec des plafonds en bois qui ont des belles acoustiques. Et puis aussi une atmosphère très insouciante à l'île de Ré, avec des festivals de jazz qui ont de plus en plus d'importance, et donc aussi des artistes, je dirais pas locaux, mais qui viennent un peu de cette atmosphère, comme les frères Enco, qui sont encore présents au festival cette année. Le travail qu'on peut faire avec les spectacles équestres, que je monte avec Manu Huygarnet, avec de la musique inédite comme celle de Jimi Hendrix, qu'on a transcrit pour Orchestre à cordes l'année dernière. Cette année, le jazz manouche, avec un artiste très intéressant qui est Sébastien Gigneux. Voilà, il y a beaucoup d'expérimentations à faire là, beaucoup de poésie à trouver. Et puis voilà, nous sommes dans une grande région à partir de cette année qui est le nom est encore en train de se chercher, la Grande Aquitaine, la Grande Atlantique, bref, on a le Limousin, l'Aquitaine, la Charente-Maritime qui forment une des plus grandes régions de France et dans le futur, je pense qu'il y aurait quand même pas mal de choses à faire pour qu'un festival puisse irriguer un peu toutes ces terres en croisement avec Bordeaux qui est un peu la capitale de cette grande région. Il y a de la dynamique à trouver là, oui.
Comment est-ce que vous dosez votre cocktail pour le festival ? Il faut telle proportion de grands classiques, telle proportion de découvertes, telle proportion de ce qu'on appelle crossover, enfin, comment est-ce que vous faites votre recette ?
On se prend pas trop la tête hein, pour le moment. Il y a des découvertes avec des jeunes, que ce soit voilà des jeunes jazzmen comme les Enko, comme des jeunes chanteurs comme Léa de Sandre ou tous ceux qui vont chanter le Dixie Dominus de Handel avec moi, les élèves du Conservatoire de Paris de Isabelle Guillot qui font souvent des masterclass là-bas, des artistes équestres comme Anne-Gaëlle Berthaud qui est un prodige du dressage en liberté, c'est une discipline magnifique, c'est-à-dire on est face à tout un groupe de chevaux sans aucun matériel, aucun harnachement et on fait danser les chevaux, on les fait réagir, on peut leur faire des figures, on peut les faire réagir aussi à la musique et cette prodigieuse artiste qui est Angèle Berthaud qui a 18 ans a fait un peu ses débuts au festival l'année dernière et se reproduit cette année. Voilà, c'est un peu dans toutes les directions, mais en tout cas la jeunesse est définitivement un fil conducteur. La musique sacrée depuis quelque temps parce que on a de belles églises et qu'à Saint-Martin on peut y présenter de très belles choses. La musique de chambre parce qu'on a des formations qui aiment jouer, qui aiment venir, que ce soit le quatuor de Tima, le quatuor à Rhodes, le pianiste Guillaume Vincent. Enfin bon. C'est un festival un peu sans thématique et avec pourtant des rendez-vous un peu stables.
Il y a une diva à côté qui veut se faire entendre, Marc Minkowski. Mais je fais un grand écart, mais la programmation de l'Opéra de Bordeaux, vous avez eu envie, vous, dans votre projet, qui a fait quand vous avez été choisi, de vous orienter selon quels grands axes pour votre programmation?
L'Opéra de Bordeaux est un outil extrêmement séduisant, en même temps très complexe. Je suis à l'étude en ce moment pour présenter la prochaine saison, qui sera une saison de transition, et en même temps une saison où j'espère amener quelques-unes de mes recettes. Ne prenez pas ombrage, chers auditeurs, mais attendez encore un petit peu le mois de juin, où je vais pouvoir dévoiler un petit peu tout ça d'un coup. Je préfère comme les statues, enfin, ça sera plus modeste qu'une grande statue, mais je préfère dévoiler le rideau d'un coup.
Non, on sera là derrière le rideau, enfin, ça dépend dans quel sens on se place, mais on sera là et on regardera avec attention, évidemment. Nous poursuivons cette dispute consacrée le jeudi soir à la musique avec Jean-Guyen Queyras, dont nous avons déjà parlé dans cette émission. Le violoncelliste vient de graver un disque consacré à Schumann chez Harmonia Mundi avec le concerto pour violoncelle opus 129 et le trio avec piano numéro 1. On écoute le début du troisième mouvement du concerto. Thank you. Pour cet extrait de ce nouveau disque Schumann chez Harmonia Mundi, ça fait partie d'un ensemble. Cette fois, c'est Jean-Kéran Kéras qui est en avant sur ce troisième volet de publication autour de Robert Schumann. Anna Sigalevitch, pour commencer.
Oui, sur ce troisième. Alors, c'est un disque qui n'est pas évident, je trouve, à appréhender. Dont on a du mal à comprendre les contours, l'énergie, les dynamiques, etc. C'est pas un disque qui est évident, voilà. Mais c'est un disque moi qui a fini par me convaincre en l'écoutant plusieurs fois, notamment quand même grâce au jeu de Jean-Guillain Kéras que je trouve
surtout.
Oui, c'est ça. Oui. Surtout. Mais vous voulez me contredire aujourd'hui?
Non, vous êtes là. Nous sommes là pour nous disputer.
D'accord. Non, vous avez l'air d'accord en plus.
Voilà, qui a un son franchement dans le concerto pour violoncelle, qui a en plus un concerto, je trouve magnifique, qui a un sens, enfin, qui va vraiment dans le détail. Voilà. Alors on construit pas de façon dramatique quelque chose qui se met en place. C'est on prend des chemins sinueux, etc. Mais que je trouve intéressant finalement à découvrir. Jean-Guillain Kéras est dépourvu de toute démonstration de virtuosité. Il est très très sensible. Il raconte quelque chose et y a une vision de l'œuvre qui est à la fois tenue, qui est articulée, qui est cohérente avec un vrai souffle. Je trouve qu'il y a dans sa façon de frotter les cordes quelque chose d'hypersensible et que je trouve cohérent avec la musique de Schumann en plus, qui va dans un sens, dans un autre, etc. On se promène, on a vraiment l'impression d'être dans une forêt qui est pleine d'ombre, de lumière, où on croit trouver un chemin et en fait non, il est en permanence contredit par dans un sens ou dans l'autre. Et ça, je trouve que c'est très réussi pour ça.
Sur le concerto pour violoncelle, Emmanuel Dupuis.
Oui, je suis d'accord sur votre analyse. Mais vous savez, un concerto, c'est un soliste et un orchestre.
Et il y a un orchestre.
Et il y a un orchestre. Alors effectivement,
Freiburger Baroque Orchestra, qu'on a entendu parfois,
qu'on a entendu
très bien.
Ouais.
Je partage votre analyse sur le jeu de Kéras, effectivement, qui est un très grand violoncelliste, qui a une capacité à développer un discours très construit. C'est vraiment un violoncelle qui chante dans le mouvement lent. Ce qu'il fait, c'est absolument magnifique, mais c'est un monologue. Il n'y a pas de dialogue avec l'orchestre, parce que le problème, c'est que la philosophie de ce projet, en fait, c'est que c'est trois disques, donc ils proposent chacun un concerto, donc concerto pour violon, concerto pour piano, puis cette fois le concerto pour violoncelle, chaque fois couplé avec un des trios de Schumann. Ces trois disques sont réalisés avec le Freiburger Baroque Orchester, qui est un orchestre d'instruments anciens. Or, les instruments anciens, pour jouer Rameau ou Handel, c'est très bien, mais pour jouer la musique romantique, je suis désolé, mais c'est... Comment dire ?
Ça va pas.
Moi, ce que j'entends, sont les limites.
C'est le piano, franchement, moi, je trouve.
Oui, alors après on parlera du trio. Mais enfin, dans l'orchestre, bon, moi, ce que j'entends surtout, c'est les limites, c'est l'impossibilité, la capacité à phraser, les limites en termes de justesse. Enfin, pour reprendre un mot célèbre du regretté Nicolas Hernoncourt, ce n'est pas les instruments qui sont authentiques, ce sont les musiciens. Le jeu, je suis désolé, il n'a rien d'authentique. C'est morcelé, et du coup, il y a un hiatus total entre l'orchestre et le violoncelle. Alors ensuite, le trio, effectivement, il y a le problème du piano. Là aussi, c'est un... Un piano ancien.
C'est un Streicher de 1847.
Exactement. C'est un piano assez mat. Là aussi, sans
sec.
Voilà, sans comptabilité. Exactement. En plus, Isabelle Faust, au violon, joue constamment sans vibrato. Alors, ça, à la longue, c'est un petit peu fatigant parce que c'est...
Voilà, ça scie les nerfs, comme disait.
Donc,
il n'y a pas d'entrelacement entre les... Ouais.
Non, mais non, parce que... Et Kéra, c'est là, lui, il chante comme il sait faire. Donc, mais du coup, voilà, ça marche pas, quoi.
Même limite pour vous, Anna Sinkevich, pour le trio?
Oui, un petit peu moins quand même, parce que ce qui est intéressant, même dans le trio, je trouve, c'est qu'il y a quelque chose qui s'installe jamais. C'est-à-dire que...
Ah oui, ça...
Non, mais il n'y a pas de zone de confort.
Non, oui, effectivement. C'est expérimental, voilà.
C'est pas inintéressant, parce que ce tumulte, ce tourment, cette forme d'apnée par moment et de voilà, on s'assied quand même un petit peu à la musique de Schumann. Enfin, je trouve pas ça absurde. Non, effectivement, ce qui est dommage pour moi, c'est vraiment en termes de sonorité. C'est vrai que ce piano qui manque, à mon avis, de chaleur, de profondeur, d'harmonique, quoi, tout simplement. Ouais. Qui sont quand même en plus géniales chez Schumann, donc on se dit zut, c'est quand même frustrant, vu les possibilités des instruments actuels, de pas mettre ces instruments, je trouve, ensemble. Et Isabelle Faust, c'est vrai qu'elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances.
Oui, mais ça en devient maniéré. Disons les choses franchement, quand même.
Oui, un petit peu, c'est vrai. Mais bon, c'est pas non plus... Enfin, ça va, quoi. Ça s'écoute avec plaisir.
Non, mais c'est une très grande musicienne, très intelligente. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais peut-être trop intelligente, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut un peu plus de spontanéité naturelle.
Et de fluidité.
Et là, c'est ce qui manque. Bon, et puis, il faut quand même dire que ce sont deux œuvres, à la fois le concerto pour violoncelle et ce trio, et les trios de Schumann, de façon générale, pour lesquels on a des très grandes versions, quoi, qui existent. Donc, on se heurte quand même à la rude concurrence, et notamment pour le concerto, à la version de Rostropovitch et Britten, qui est...
Et de Dupré, moi j'adore celle de Dupré.
Et celle de Dupré également aussi.
Bon, pour l'heure, nous parlions du CD. Il y a un DVD aussi, ça c'est pour le concerto pour violoncelle, c'est par Jean-Guy Queyras, avec le Freiburger Baroque Orchester, dirigé par Pablo Heras Casado, nous ne l'avions pas dit. C'est paru chez Harmonia Mundi.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous concluons comme chaque soir avec le jeu de la dispute et d'abord un retour sur le d'hier au soir, Antoine Guillot.
Vous avez gagné des invitations pour le nouveau film très musical de Raphaël Nadjari, Mobile Étoile. Je vous avais demandé qui a composé la chanson qui donne son titre au film et comme le souffle Emmanuel Dupuis, c'est Fernand Alphen sous le titre original Dis-moi Mobile Étoile.
Ce soir, des invitations à gagner pour l'exposition Habiter le campement jusqu'au 29 août à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Quelle est la question, Antoine?
Quelles sont les six typologies, je dis bien 6, de campements établis par la commissaire et le comité scientifique de cette exposition?
Votre réponse en 6 points, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Anna Sigalevitch, Emmanuel Dupuis, Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi vous abonner au podcast de notre émission, un site sur lequel vous pouvez nous écrire. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Leduo, qui la conçoit et la prépare à mes côtés. La prise de son était assurée ce soir par Jean-Richard Dufour. La réalisation signée Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie d'Émilie Barnett et Florent Georgesco. À notre sommaire, La maison dans laquelle de Mariam Petrosian et La zone de Markian Kamish. Nous évoquerons plus rapidement Une femme chez les chasseurs de tête de Titaïna et Une vie de paysage de Béatrice Comanger. Nous retrouverons Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle de la dispute, les choix de Marc Minkowski, invité de la dispute cette semaine. Il y aura bien sûr un nouveau cadeau à gagner. Tout cela c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, hors champ par Laure Adler et dans quelques instants, le journal de la rédaction.